renouvelable,
désertification,
santé publique,
eau potable,
environnement médiatique,
développement durable,
technologie,
écologie,
économie,
droits humains,
démocratie,
respect de la vie,
politique internationale, juste diversité,
pollution, paix.
Parce que pour faire avancer les idées, il faut les brasser. Cette semaine à Delirium Environnemental, pour vous divertir, mais surtout, nous l'espérons, vous informer. En première heure, une revue de l'actualité, comme d'habitude, où on vous parle, entre autres choses, de qualité de l'air en milieu urbain, d'énergie, de biodiversité et d'OGM. Le dossier de la semaine, cette semaine, c'est les déchets. Et oui, c'était encore la 4e édition de la Semaine québécoise de réduction des déchets. Pour souligner l'occasion, on vous parle de déchets électroniques et de l'industrie viandeuse. Vous voyez pas le lien? Mais restez en ligne avec nous, on va vous en parler. En troisième partie, la principale cause de pollution chimique dans le monde, les pesticides. On vous en parle, en fait, M. Michel Gaudet de la CAP vous en parle, ainsi que M. Benoît Giroir de l'Union paysanne qui nous donne ses commentaires à ce sujet-là. Et comme d'habitude, on finit par nos classiques coup de cœur, coup de masse, au calendrier cette semaine. Sofiane Legendre au micro pour vous divertir, mais surtout vous informer en compagnie de l'équipe magique, et vous l'avez demandé à grand renfort, le retour de Nicolas Mainville, bien entendu.
Eh oui!
Il n'était pas bien loin. Nicolas Mainville, donc Nicolas Milo et Hugo Lachapelle en studio aujourd'hui avec moi, et comme d'habitude à la régie, la mise en onde d'Étienne Côté-Paluc, qui fait beaucoup plus que la mise en onde. En fait, c'est lui qui conçoit et réalise notre site internet que vous trouvez comme d'habitude au www.radiodelirium.net.
En plus d'avoir acquis une nouvelle année hier.
En plus. Bon anniversaire, notre metteur en onde préféré. Donc, cette semaine, une grosse semaine, c'est la semaine de la réduction des déchets. Une belle occasion de se rappeler qu'au Québec, chaque minute, on produit 22 tonnes de déchets. C'est quand même un chiffre assez impressionnant. Tout au long de l'émission, on va vous achaler avec ça, puis on va essayer peut-être de vous donner quelques conseils pour réduire votre empreinte écologique, donc le poids que vous avez sur l'environnement. Avant de nous lancer dans la revue de l'actualité, revue de presse, peut-être simplement souligner l'incroyable éveil médiatique à la chose environnementale quand c'est rendu que le Journal de Montréal fait un dossier sur l'état des forêts avec nul autre que M. Richard Desjardins, qui, il y a 5 ans, rappelons-nous-le, avait lancé le débat avec son documentaire merveilleux et très personnel qui s'appelait « L'erreur boréale ». Ben bravo, chapeau. Radio-Canada aussi, avec il y a 2 semaines, sa série de dossiers sur l'environnement, sur les énergies. La presse qui, comme d'habitude, le lundi, a un cahier spécial. Le Châtelaine de ce mois-ci qui a un dossier environnement. Décidément, je pense qu'on les a peut-être réveillés un peu.
Même Gérard Deslaflaque.
Tout
le monde en parle. Espérons juste que la balloune ne pètera pas.
Espérons que ça ne pète pas. En attendant, nous, on a encore beaucoup de travail. Il y a beaucoup de nouvelles qui ont attiré notre attention. Entre autres choses, le 22 septembre, on vous en reparle parce que c'est important. Il y avait la journée en ville sans ma voiture. Mais ça a l'air qu'on commence à comprendre que ça a un impact majeur sur la qualité de l'air en milieu urbain, le fait qu'il y ait ou pas des voitures. Nicolas Mainville.
Ben exactement. Ça nous prend des bonnes nouvelles comme ça pour qu'on continue à en parler d'environnement. En ville sans ma voiture, 25 000 personnes au centre-ville qui se sont déplacées. C'est le double de l'année passée. Impressionnant. D'autant plus qu'on a remarqué 38% de diminution du bruit dans le centre-ville comme tel. Diminution de 100% du monoxyde de carbone et de 90% du monoxyde d'azote. J'arrête là. Moi, je trouve que c'est beaucoup trop clair.
Est-ce que ça pourrait être plus clair que ça? Ben, merci beaucoup encore une fois. C'est juste une journée dans l'année. C'est un tout petit périmètre, mais ça nous donne justement les résultats que tu viens de nous donner et qui nous donne peut-être l'idée de poursuivre dans cette belle lancée. Merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. D'un autre côté, il n'y a pas que cette journée-là qui nous donne de bonnes idées. Il y a des rencontres qui se sont tenues. Vous savez, c'est bien à la mode de discuter tout le monde ensemble de l'orientation, puis de faire des plans. Puis en fait, on s'est donné un plan. On s'est doté d'un plan d'urbanisme, si j'ai bien compris, qui va dans le bon sens. Semble-t-il que la voiture est de moins en moins à la mode en ville.
Effectivement, il y a l'Office de consultation de Montréal qui vient de regarder, d'analyser les consultations publiques qui ont eu lieu lors du plan d'urbanisme qui a été déposé il n'y a pas très longtemps. Et en fait, ça a été rendu public ce matin. On s'aperçoit, il y a M. Perrault du CRE, du Conseil régional de l'environnement, qui commente le plan en disant que, écoutez, on va souvent, presque toujours, entendre les élus, les administrations, nous parler du transport en commun, comment on doit développer le transport en commun augmenter son achalandage. Mais pour la première fois, il y a une instance officielle, l'Office de consultation de Montréal, qui nous dit on doit faire ça, mais tout en réduisant le nombre d'automobiles sur les routes. Et ça, c'est super important. C'est pas un discours officiel qui est tenu très souvent. Et selon M. Perrault, on doit saluer ça. Alors, bon, ça, réduire le nombre d'autos, ça veut dire se préoccuper de la pollution, des gaz à effet de serre, ça veut dire aussi se préoccuper de la qualité de vie des résidents d'une ville. Et puis là, ben, il reste à savoir un peu si cette recommandation-là, est-ce qu'elle va vraiment se traduire par un signal clair et fort de la part de l'administration de M. Tremblay. En fait, on se rappellera qu'en 1992, on avait établi le premier plan d'urbanisme. On avait investi à peu près 1,2 million là-dessus. Sous M. Doré, il y avait plein de bons commentaires sur les transports durables et lorsque Bourque est rentré, on a mis ça sur la tablette. Est-ce que le plan d'urbanisme, est-ce que le rapport de consultation va se retrouver sur la tablette? On l'espère pas.
On veut des tramways. On veut des tramways. Moi, je pense que Sherbrooke, d'est en ouest, là, ça serait une bonne rue pour un tramway. Hein? Ah oui. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé du plan d'urbanisme, mais il va falloir, comme ça demeure encore à l'état de plan, il va falloir les suivre de proche pour voir si ce n'est que des belles paroles.
On vous regarde.
On vous regarde. On continue peut-être avec une nouvelle. Il y a des gens qui comprennent ce qu'on vient de voir là avec ces deux nouvelles qu'on vient de vous dire. Il y en a qui comprennent moins bien. On se souvient qu'Hydro-Québec avait développé ce qu'on appelle un moteur à roues. Eh bien, encore une fois, il s'en débarrasse, il le vend et à nul autre qu'aux Chinois. Nicolas Milo.
Ben, c'est-à-dire qu'il le vend aux Chinois, c'est peut-être un peu plus complexe que cette simple affirmation-là. On se souvient qu'il y a, mon Dieu, c'est quoi, 15 ans, Hydro-Québec, un ingénieur d'Hydro-Québec avait développé un concept de moteur roue, donc un moteur donc qui est inclus dans la roue, qui fonctionne par champ magnétique, donc qui peut rouler simplement avec un apport d'électricité. Ce projet-là avait été mis de côté, tabletté, on avait tassé un peu l'ingénieur dans le coin. Dans le fond, on a essayé de taire l'affaire chez Hydro-Québec et devant l'aspect financier que ça pouvait rapporter, on se demande encore pourquoi aujourd'hui. Hydro-Québec a mis sur pied une filiale qui s'appelle TM4, technologie M4, donc pour 4 roues motrices. Et cette filiale-là est responsable aujourd'hui du relancement du moteur roue d'Hydro-Québec. TM4 est associé avec la firme française Dassault qui œuvre dans le monde de l'automobile. Et en fin de semaine dernière, eh bien, il y avait une entente qui était dans le fond conclue avec Wang Tiang, qui est un manufacturier chinois de l'automobile. Et dans le fond, on sait que le marché de l'automobile va être un des plus grandissants au niveau en Chine.
Entre autres choses.
Et on est quand même heureux de voir qu'une filiale Hydro-Québec, donc qui est encore québécoise, qui a ses bureaux à Boucherville, va peut-être pouvoir profiter de cette manne-là en ayant vendu par le billet de Dassault sa firme française son idée du moteur roue. Donc enfin, on va peut-être voir ces beaux petits véhicules rouler simplement sous la force d'un champ magnétique.
Ben quelle belle idée. On est heureux d'entendre ça, sachant que la Chine est justement, toute leur consommation augmente. Je lisais récemment que selon Harvey Mead, la Chine a consommé 30% de toute la production de pâte et papier au monde. Imaginez-vous!
Le plus gros marché du monde.
Le plus gros... Ah ben voilà, c'était donc ça.
Dassault, ils font-tu des chars Dassault?
Situé aux abords d'un des grands axes routiers de la région, le complexe résidentiel du domaine de la Rainette offre l'ultime expérience urbanisée en campagne. En effet, ces résidences luxueuses vous fourniront l'évasion tant espérée des centres-villes puants, tout en vous permettant d'y accéder en moins de 30 minutes, sauf aux heures de pointe, bien entendu. Piscines, terrain de tennis et clubs de golf seront vos plus agréables voisins. Mais l'aubaine ne s'arrête pas là. Érigée sur certaines des dernières terres humides disponibles dans la région, la valeur du terrain n'ira qu'en croissant. Chaque résidence est bien entendu équipée d'un garage double agrandi pour convenir aux nouveaux standards de l'industrie du véhicule utilitaire sport. Ces logements sont adaptés à votre réalité. Et pour vos petites emplettes, un tout nouveau centre d'achat climatisé vient d'être érigé à quelques kilomètres du site. Loin des centres urbains nauséabonds et pollués, c'est le grand air pur qui vous attend au domaine de la Rainette. Offrez-vous la paix et la qualité de vie dont vous avez toujours rêvé.
de retour à Delirium environnemental. Vous l'aurez compris, c'était ironique. On fait pas vraiment de la publicité pour le domaine des rainettes, la Fougrillon en voie de disparition, mais nous vous en reparlerons dans le bloc biodiversité en voie de disparition. On revient donc, on dit que ça se peut-tu, c'est une pâte, oui,
mais c'est notre bloc biodiversité?
Non, pas du tout. On va poursuivre sur la question de l'énergie. On sait depuis toujours, les premiers Amérindiens qui ont habité le Québec savaient qu'il y avait du vent ici. Les anciens ceintures fléchées auraient pu vous dire qu'il y avait du vent ici au Québec. Mais semble-t-il que nous, on vient de flasher. Puis d'ailleurs, on va se faire un bel atlas, ou si j'ai bien compris, on va faire partie d'un atlas.
C'est qu'aujourd'hui, ça prend des radars
pour
prouver les choses.
Le nez, le tout pète au vent, c'est plus suffisant.
C'est plus
assez. Ah, d'accord.
Mais ce qui arrive, c'est que, dans le fond, au début de semaine, le gouvernement fédéral, le ministère de l'Environnement, était très heureux de mettre à jour l'atlas des vents canadiens. C'est un beau livre canadien sur la dispersion, dans le fond, des vents. Québec et Terre-Neuve sont les deux jackpots du vent au Canada. On est heureux de l'apprendre.
Bingo.
Donc, c'est un bingo, on a gagné. C'est un premier inventaire informatisé du potentiel éolien canadien. Donc, il s'agit d'une interface informatique où est-ce qu'on peut savoir très bien où se trouve le vent. Sauf qu'il y a eu plusieurs remarques. Premièrement, au niveau de la convivialité, c'est pas nécessairement très, très évident. Ça nous donne une bonne idée au niveau des rayons de près 5 km d'action. Donc, on sait qu'à l'intérieur de 5 km par 5 km, le vent est de temps. Sauf que quand vient le temps de mettre une éolienne à quelque part, mais c'est beaucoup plus précis qu'il faut être que sur une échelle de 5 km. Et ça aussi, ce que ça a comme des avantages, c'est que ça permet pas, par exemple, à Sofiane Lejeune, qui aimerait ça devenir autonome d'Hydro-Québec,
oui,
avoir sa
vrai.
Propre éolienne, et bien de savoir, elle, sur son terrain, c'est quoi qui se passe. Ça, présentement, le gouvernement, dans le fond, par le ministère de l'Environnement, nous dit, non, si vous voulez avoir accès ces renseignements-là, vous paierez.
Pourtant, elles existent, ces données-là.
Existent, ces données-là. C'est très facile de donner 2 jours à un ingénieur informatique du ministère de l'Environnement qui est capable de créer une interface qui va répondre totalement à ça. Il pourrait être en ligne sur Internet, donner ça gratuit à tout le monde, mais non, nous, il va falloir qu'on paie.
À la place de taxer les pollueurs,
et voilà,
on va faire payer les gens qui veulent s'informer des puissances d'enfants.
Moi, je comprends pas ça. Je veux dire, c'est-tu une source de revenus pour le gouvernement?
Le gouvernement voit un peu...
Qu'ils vont faire avec ça, là.
C'est un espèce, dans le fond, de retour du pendule. Ça a coûté quelque chose de développer le concept. Bien, il faut à un moment donné, dans le fond, qu'au sein même du ministère en question, ben qu'on renfloue les coffres d'une certaine façon.
Pour payer l'impression de l'Atlas.
Oui, je sais pas, mais c'est un gros Atlas.
Je me demande s'ils veulent pas, en faisant ça, limiter un peu le nombre de demandes qu'ils vont avoir pour le moment, tu sais, question
peut-être,
de mettre la pédale douce.
Mais ce qui est intéressant de voir, c'est deux réactions totalement opposées. Je vous dis rapidement, Hydro-Manitoba, où ça existe, et Hydro-Québec. Hydro-Manitoba, un tout petit producteur d'électricité, peu d'hydroélectricité et qui vise l'éolien, ont fait un appel d'offres de 1000 MW eux aussi la semaine dernière. Eh bien, eux autres sont totalement frustrés parce qu'ils se disent, voyons, nous on veut encourager les particuliers à développer eux-mêmes leurs sources d'électricité. Si un fermier veut mettre son éolienne, mais qu'il puisse le faire, sauf que là, l'outil est absolument d'aucune aide pour ces gens-là. Donc,
mais attends, explique-moi pourquoi Hydro-Manitoba s'intéressait à faire ça.
Mais Hydro-Manitoba, ils ont l'avantage d'être un petit peu plus près des grands centres ontariens et surtout du Middle-Ouest américain, donc deux marchés très très forts au niveau de l'exportation. Et eux autres, ils se disent, si nos fermiers produisent leur propre électricité, on va en avoir plus pour vendre à un prix qui est beaucoup plus intéressant. Et l'autre remarque, mais c'est Hydro-Québec. Je suis désolé, mais on a déjà parlé du manque de vision d'Hydro-Québec ici, sur cette tribune.
Ah, rien qu'un mythe.
C'est, mon Dieu. Eh bien, Hydro-Québec, premièrement, dit que l'idée de se doter de son propre parc éolien, eh bien, ça serait réalisable, mais ce n'est pas du tout dans les plans. Hydro-Québec veut même obliger les producteurs individuels d'éolien à lui payer 0,9 cents du kilowatt pour utiliser le service d'Hydro-Québec, toute l'infrastructure de distribution d'Hydro-Québec qui servirait dans le fond à entreposer de l'électricité, donc de charger ça. Et ils veulent même aller jusqu'à charger, dans le fond, à acheter l'électricité jusqu'à un seuil de 36%. Si votre éolienne fonctionne pendant 36% du temps, on vous achète votre électricité, tout ce qui est au-dessus, on vous l'achète pas. Mais comme une éolienne est branchée directement sur le réseau, ça va rentrer gratis dans les poches d'Hydro-Québec sans redonner une Moses de scène, c'est dégueulasse.
Là, on va mettre un homme là-dessus, ça nous prend quelqu'un d'Hydro-Québec ici en studio. S'il faut, on va s'attacher les mains, là. Mais...
on va l'attacher lui. Il va vouloir partir
en courant. Merci beaucoup, Nicolas Milo, de nous avoir parlé de tout ça. C'est un peu révoltant. Il va falloir qu'on y revienne subséquemment. Monsieur Dion, Stéphane Dion, de son prénom, nouveau ministre de l'Environnement au Canada, est parti en grand quand même. Depuis qu'on lui a octroyé ce ministère-là, il est parti en grand. Là, il nous sort une boutade qui, moi, m'intéresse beaucoup. Il nous dit que lui, il est pour un ministère du développement durable. Hugo, qu'est-ce que c'est?
Nouveau concept, ben oui. Monsieur Dion arrive au ministère de l'Environnement du Canada avec certaines patates chaudes dans les mains, dossier changement climatique, dossier Kyoto, l'avenir énergétique, les éoliennes en prime. Et mais pourtant, lui, il nous propose une autre résolution dans la manière de fer nous dit qu'Environnement Canada est mûr pour devenir le ministère de l'économie durable. Et par là, il entend que les programmes en environnement, pour lui, c'est clair, ça va être fait à travers de l'économie. Alors, selon lui, les pays qui polluent le moins sont de plus en plus compétitifs au niveau international. Et avec toutes les restrictions qu'on a établies au niveau international, on risque de pas avoir un accès à certains marchés. Et donc, il faut vraiment se préparer pour être dans la game, disons. Alors, monsieur se propose d'une approche pragmatique, face à son prédécesseur, qui avait une approche beaucoup plus puriste de l'environnement. Alors, par contre, M. Dion, lui, a vu Anderson agir pendant des années, toujours en opposition au transport, à l'économie, aux ressources naturelles. Et puis pour lui, finalement, il est vraiment grand temps d'utiliser des instruments économiques, des politiques financières pour s'attaquer aux problèmes. Alors, en général, le gars a été bien reçu par la plupart des gens au fédéral, tout du moins. Mais ce qu'on nous dit, c'est, écoutez, c'est des super belles paroles. Il y a un fond de bon sens mais qu'est-ce que ça représente dans, par exemple, l'atteinte de nos objectifs de Kyoto? Hein?
Bonne question. Mais il faudrait peut-être aussi lui suggérer de fusionner plusieurs ministères. Pourquoi pas le ministère de l'Environnement, le ministère des Ressources naturelles, mais également le ministère de l'Agriculture. Il joue pas mal dans la même cour tout le temps, mais nous y reviendrons encore une fois. Merci beaucoup, c'est intéressant. Monsieur Dion aussi, ça serait un homme à inviter, ça.
Il écoutait jouer du violon.
Il joue du violon?
Je sais pas, mais ça paraît incommunicatif.
De retour à Delirium Environnemental, le magazine radio d'information en environnement. Je vous rappelle qu'on n'invente absolument rien. Les choses desquelles on vous parle, on lit ça entre autres dans les journaux, sur les sites des groupes de pression, etc. Toutes les nouvelles desquelles on vous parle sont disponibles sur notre site internet au www.radiodelirium.net. Bon, c'est la semaine de la réduction des déchets. Le saviez-vous? Ce n'est pas suffisant. On s'arrêtera pas là. Il n'y a pas que les déchets dans la vie. C'est très important, mais on va quand même vous faire un petit bloc biodiversité. Vous savez que le palmarès, plutôt la liste des espèces menacées, ne cesse de s'agrandir à un rythme hallucinant. Certains disent qu'on serait dans la 6e grande ère d'extinction des espèces. Nicolas Mainville, tu vas nous parler de la disparition, pas d'une espèce, mais d'un ensemble d'espèces. On peut se dire ça? Les amphibiens. Mais d'abord, juste en deux mots, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste les grenouilles ou quoi?
Les amphibiens, en fait, c'est un gros groupe d'espèces. On parle, oui, des grenouilles, des crapauds, les salamandres. Bon, en fait, c'est au-dessus de 6000 espèces qui sont répertoriées, qu'on connaît, d'amphibiens.
Et puis, très menacées.
Ils sont extrêmement menacés. Puis c'est un cri d'alarme qui est lancé par 500 scientifiques. Une grosse étude. qui est dans le Science de la semaine passée, qui nous montre que avec toutes les études qui ont accumulé durant les dernières années, les amphibiens représentent vraiment des espèces clés et baromètres dans les écosystèmes. C'est-à-dire que c'est des espèces qui réagissent vraiment facilement, premièrement aux polluants, mais aussi au changement climatique.
Entre autres à cause de leur peau, à ce que j'ai entendu.
Exactement. Donc les amphibiens, c'est leur principale caractéristique. Ils respirent par leur peau. Donc une partie de l'oxygène qu'ils inspirent, ils ont beaucoup d'échanges avec la peau, mais ça se fait principalement par la peau. Donc, avec cette caractéristique spéciale-là, eh bien, ils sont exposés à des polluants de façon fréquente, sont aussi exposés à des changements de température et ça les affecte davantage. Donc, l'étude qui a été faite avec ces 500 scientifiques-là, mais aussi en lien avec l'UICN, l'Union mondiale de la conservation de la nature, Conservation International puis Nature Serve, ont dit, écoutez, on lance un cri d'alarme en ce moment dans le monde scientifique pour que les différentes instances politiques dans le monde commencent à prendre en considération le déclin de cet immense groupe d'espèces-là, puisqu'il nous donne, d'une certaine façon, la donne pour ce qui s'en vient avec les autres espèces. Mm-hmm. Donc, les premières à réagir, mais qui donnent quand même une estimation de ce qui s'en vient. Notamment, point de vue changement climatique, vous savez, on connaît encore très peu les impacts des changements climatiques sur la biodiversité. On est en train de tâter le pouls un peu, mais je veux dire, c'est des changements qui sont tellement rapides qui sont difficiles à être évalués. Et puis bon, ce qu'on fait ces 500 scientifiques là, c'est qu'ils ont sorti les principales causes. Je pourrais vous les dire. Bon, pollution d'origine industrielle, disparition des habitats, évidemment le déboisement et la disparition des habitats, milieu humide surtout, la surexploitation commerciale. Et puis bon, c'est ça. Là, on arrive avec les plus acides, les problèmes classiques. Puis on se rend compte que les amphibiens sont vraiment, comme je disais, des baromètres. Donc une étude importante, aussi intéressante pour ce qui s'en vient, point de vue lutte contre les la disparition des espèces. Si je peux enchaîner justement avec une autre nouvelle qui est tout à fait intéressante et un petit peu plus encourageante, la CITES. Vous connaissez la CITES, qui est la Convention des Nations Unies sur le commerce des espèces menacées, qui se tenait la semaine passée à Bangkok. Eh bien, il y a plein de belles répercussions qui sont tombées de cette convention-là. C'est 160 pays qui étaient réunis pour voir comment qu'on peut lutter au commerce de ces espèces menacées-là. Et donc, ce qui est sorti de là, premièrement, c'est des gros plans pan-africains contre le commerce de l'ivoire. Vous connaissez probablement la problématique de la chasse aux éléphants, du braconnage. Et puis, ce qu'on est en train d'établir comme plan, c'est vraiment la réduction ou l'interdiction totale du commerce de l'ivoire, ce qui est déjà intéressant. Il y a aussi d'autres espèces quand même assez figures de proue dans les luttes.
Grands singes, entre autres.
Les grands singes, le requin blanc, le cachalot, certaines espèces de dauphins, les grands félins asiatiques, qui ont toutes reçu une certaine mention de protection ou d'interdiction de commerce. Donc, intéressant de voir ces retombées-là de la CITES. C'est d'ailleurs une des conventions qui marche le plus dans les différentes conventions internationales faites, chapeautées par l'ONU, point de vue environnement.
Bravo.
Juste préciser que c'est 60 pays, non 660 pays qui sont réunis.
660?
660, ça serait dur.
Ça serait dur, un peu, il y en a pas. Moi, j'avais compris 160.
Ça marche, ça marche. Ça,
mais merci beaucoup de nous avoir parlé de ces nouvelles dramatiques-là. On en retient quand même que la communauté internationale s'est mise ensemble pour en discuter. Et à ma connaissance, habituellement, ils ont justement le don de pointer des espèces animales qui ont, l'intérêt du public.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'ils vont prendre des animaux qui sont beaux.
Les beaux petits phoques blancs.
Exactement, ouais. Qui sont beaux, les panda. Ou... Mm. Puis comme ça, ils arrivent à faire de la sensibilisation. Ce qui expliquait, entre autres, c'est que la chauve-souris, malheureusement, n'est pas très, très populaire. Mm-hmm. On parlait de disparition des habitats. Ici même, au Québec, il y a la disparition. En fait, il y a une espèce de grenouille, donc dans la catégorie amphibien, qui est menacée. C'est la rainette faux-grillon, j'imagine, parce qu'elle se prend pour un grillon dans la façon dont elle chante. Hugo Lachapelle.
Mais oui, est-ce que vous vous rappelez, l'année passée, on a parlé de deux biologistes qui avaient lancé un programme de recherche sur la rive sud pour essayer d'évaluer le nombre de rainettes faux-grillons. En fait, on voulait faire un inventaire de tous les étangs où cet amphibien-là vit en Montérégie. Ça a été fait en collaboration avec le Centre d'information sur l'environnement de Longueuil. Je savais pas qu'il y avait ça, bravo. Et puis les résultats de la recherche vont être mis à la Fondation de la faune du Québec et puis au programme d'intendance de l'habitat du gouvernement fédéral.
Qu'est-ce qu'ils ont découvert?
Leur gros constat, c'est que la population de l'espèce désignée vulnérable au Québec en 2000 a subi un déclin dramatique dans la région, et puis ça c'est en gros en raison de la destruction de son habitat. En gros, on peut vous dire là, il y avait 805 étangs qui avaient été cartographiés lors du début du projet, et 6 mois plus tard, lorsqu'on a repris des mesures, on s'est aperçu qu'il y avait 42 de ces étangs-là qui avaient disparu au profit, bien entendu, de développement domiciliaire. Alors, on installe une route, on est obligé de noyer le marais ou de le renflouer, disons, avec de la terre, de drainer son eau, et plus de rainettes faux-grillons. On dit qu'il y en a entre 5 et 10 % des rainettes qui ont disparu seulement dans ces 6 mois-là. Alors, j'aimerais juste ça vous mentionner que finalement, formuler une critique là contre l'automobile, c'est aussi formuler une critique contre tout le modèle de développement de banlieue là, qu'on appelle l'étalement urbain. Et puis la rainette est ici pour nous rappeler que ce que ça peut impliquer, le développement urbain pour le milieu naturel.
En fait, c'est aussi de très mauvais choix de zone. Quand on va s'installer dans un milieu humide, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de mieux, ni pour les constructions, ni pour l'environnement au complet, parce qu'on sait que les milieux humides sont souvent le nid de plein d'espèces, mm-hmm. puis qui sont souvent à la base de la chaîne alimentaire.
Justement, par rapport à ça, la rainette faux-grillon est vraiment, je dirais, l'emblème de la lutte contre la perte le déboisement et la perte des milieux humides. Il y a d'ailleurs le groupe Protégeons nos boisés et milieux humides sur la Montérégie qui fait un travail exceptionnel.
Alors, conclusion, n'allez pas acheter un condo au domaine de la rainette.
Nous y reviendrons. Il y a des très beaux condos urbains, des condos, des éco-condos. J'ai découvert une petite compagnie montréalaise qui s'appelle Éco-Cité. Vous irez voir ça. En plus, c'est abordable. Puis, on peut réduire les coûts de chauffage et de climatisation 80%. Ça, c'est quand on construit intelligemment. Assez impressionnant. Je vous donnerai l'adresse un peu plus tard. Hugo Lachapelle, tu nous parles également de comme si la disparition des milieux naturels n'était pas suffisant, tu nous parles rapidement des Frankenfish.
Ben oui. Alors, on n'a pas juste des problèmes de disparition, on a des problèmes d'apparition. Vous savez que l'introduction d'espèces exogènes, c'est la deuxième plus grande cause de perte de biodiversité dans le monde. Et les grands lacs, en ce moment, font face à deux nouveaux poissons. Mais moi, en fait, c'est les solutions et puis les mesures qu'on prend que je trouve pas mal épeurantes, en fait. Le premier cas, c'est le snakehead, ce qu'on appelle le frankenfish, un poisson hideux. Alors, on en a trouvé un. Ça mange comme c'est pas possible. C'est agressif et ainsi de suite.
Tu prends ça dans le journal de Montréal.
On en a trouvé un. Et puis là, on s'inquiète. Est-ce qu'il a été jeté dans les grands lacs par une personne ou est-ce qu'on fait face à une population de ces poissons-là? Si on fait face à une population, c'est très inquiétant. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va envoyer des chocs électriques dans le lac.
Non!
Près de où on l'a trouvé. Pour donner un bon petit coup de jus aux poissons, pour qu'ils remontent à la surface, pour qu'on puisse les compter, les identifier et s'assurer qu'il n'y a pas d'autres frankenfish.
Mais là, ils vont pas les tuer en faisant ça?
Ben non, mais ça va les sonner, hein, ça va les sonner.
Quelle belle façon de régler un problème.
Solution écologique, mais attention, ce n'est pas la seule. Dans le deuxième cas, il y a les carpes asiatiques qui, elles, sont en train de remonter le Mississippi et on a un canal entre le Mississippi et le lac Michigan à travers duquel on est inquiet. Pourrait-il passer par là et se rendre dans le lac Michigan et attaquer la business de plusieurs millions, si pas milliards de dollars de pêcherie? Non, on veut pas ça, hein?
Donc, on va faire des chocs électriques.
Eh bien...
Non, des barrières électriques.
Checkez bien ça. Les barrières électriques, donc, qu'on va installer, c'est le United States Corps of Engineers, les trouveurs de solutions de la planète, qui ont décidé qu'ils allaient mettre une barrière physique électrique pour arrêter la progression. Alors, c'est plutôt inquiétant, tant qu'à moi.